Bonjour tout le monde, merci d'être venu. J'avoue qu'avec la neige, je pensais que la salle serait vide, mais donc je suis ravie de vous voir, ici. Voilà. Et donc le titre de mon cours cette semaine, c'est censé être focalisé sur le chromosome X inactif, mais puisque j'ai pris un peu de retard la semaine dernière sur les aspects compensation de dose, vous allez voir que je commencerai avec ça et ensuite on va parler du X inactif et de toute façon la semaine prochaine on va continuer à parler du X inactif. Voilà. Donc je voulais faire un résumé tout ce qu'on a discuté la semaine dernière. Donc tout d'abord, je vous avais parlé des avantages de la reproduction sexuée par rapport à une reproduction asexuée. Donc pourquoi la détermination de sexe a évolué, du coup, les avantages de cette reproduction sexuée qui permet donc la création des nouveaux êtres à chaque génération, le brassage des génomes. Et donc, pour la détermination de sexe, je parlais un petit peu des mécanismes divers qui existent. Et plus on regarde dans la nature, plus on trouve. Donc, il y a la détermination qui est non génétique, donc qui est dictée par l'environnement, et de plus en plus, on réalise que ça, c'est assez fréquent. C'est très souvent dépendant de température, comme par exemple chez les reptiles, certains reptiles. Ça peut être aussi épigénétique, donc de plus en plus de cas, maintenant qu'on peut regarder avec les outils qui détectent les changements épigénétiques, nous réalisons qu'effectivement, il y a des changements de sexe qui sont liés à des modifications épigénétiques, des gènes qui déterminent le sexe. Donc, je vais vous parler plus de ça peut-être à la fin du cours. J'avais en fait rajouté 2-3 diapos, mais je me suis dit que je ne vais jamais terminer si je continue comme ça. Donc voilà, c'est fascinant, mais je vais me restreindre. Donc, la détermination génétique, c'est la manière la plus étudiée parce que nous avons pu identifier les locus et maintenant les gènes qui sous-tendent cette détermination génétique. Et en particulier chez les mammifères, effectivement, nous savons maintenant que le facteur qui détermine le sexe mâle est SRY, ce facteur de transcription qui est absolument crucial pour déclencher la différenciation vers la sexe masculine. Et donc, l'évolution de ce gène, comme je l'ai décrit un peu la semaine dernière, souvent ces gènes sont la source de ces gènes de détermination de sexe, sont des gènes autosomales et qui sont utilisés, réutilisés différemment. Et donc, dans ce cas-là, c'était le gène SOX3, qui est sur le chromosome X, bien sûr, chez les utériens, mais qui se trouve sur des autosomes dans d'autres organismes, et c'est un gène qui peut être réutilisé quand une nouvelle vague de détermination de sexe peut arriver. Et donc, je parlais aussi du fait que, malgré ce qu'on pensait que finalement la détermination de sexe féminin est presque par défaut, on réalise de plus en plus qu'effectivement il y a des voies génétiques qui sont importantes aussi pour cette détermination et des gènes qui sous-tendent les cascades moléculaires et les voies de signalisation commencent à être déterminées. Et j'ai discuté un tout petit peu de cet équilibre qui est très, 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 très délicat entre les voies masculines et féminines qui sont présentes non seulement et importantes, non seulement au cours du développement, mais même chez l'adulte. Et ça, c'est quelque chose qui commence à être étudié de manière plus précise que récemment. Et donc, j'ai parlé des chromosomes sexuels qui évoluent justement quand un nouveau gène de sexe arrive. On voit apparaître des chromosomes sexuels dans différents cas. Donc, il y a différents types de systèmes. Il y a le système que nous savons chez les mammifères, XX pour les femelles, XY pour les mâles, mais il y a aussi les systèmes ZWZZ qu'on trouve chez les oiseaux, par exemple, chez certains poissons, etc. Et puis, un autre système, le système UV, qui là est plus lié à une haploïdie, diploïdie. Mais je n'en ai pas parlé, en fait, la semaine dernière. Et donc, Maintenant, je pense que c'est assez accepté que l'évolution de ces chromosomes sexuels arrive à partir d'un paire d'autosomes qui sont comme tous les autres autosomes, mais avec l'apparence d'un gène comme SRY, par exemple, qui va déterminer le sexe masculin. Et donc, on a ces proto-chromosomes sexuels, le proto-X et le proto-Y, ou le proto-Z et le proto-W. Et à partir de ce moment, il y a, au cours de l'évolution, une suppression de la récombinaison par différents moyens, mais en fait pour préserver justement cette identité, on va dire, masculine. Et donc cette suppression de récombinaison pour garder le facteur important, plus d'autres gènes qui accumulent, qui sont importants pour l'identité mâle, dans le cas du Y, conduit petit à petit à la dégénérescence du Y. Et dans certains mammifères, on a parlé de même la disparition du Y. Et dans d'autres organismes, c'est aussi le cas. Mais on a aussi des évidences que dans certains cas, le Y est stabilisé et qu'il y a même des nouveaux gènes qui sont rajoutés parce qu'il y a un avantage pour les traits masculines. Et donc, en fait, c'est toujours un débat. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'évolution du Y n'est pas terminée dans aucun cas. Et même si parfois il disparaît, d'autres fois, il peut se stabiliser et même devenir encore plus intéressant avec des nouveaux gènes qui se rajoutent. Mais je ne vais pas parler beaucoup plus du Y aujourd'hui. Je vais parler des différences justement dans ces chromosomes sexuels qui diffèrent beaucoup entre différentes espèces. Je vous avais parlé justement de ce qu'on voit chez la mouche drosophile par rapport à l'homme. Et en fait, la détermination du sexe, les gènes ou les loci qui sont impliqués peuvent être tout seuls sur un paire de chromosomes qui sont quasiment identiques, comme vous voyez ici chez le poisson, le pufferfish, c'est fugu, je pense. Oui. Et puis, dans d'autres cas, c'est une région qui commence à se délimiter et qui ne récombine plus, mais qui est plus délimitée. Donc, par exemple, comme chez la fraise ou chez l'ému, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ému, voilà. C'est ça. Et puis, on arrive chez les mammifères, certains mammifères comme l'humain, où là, le X et l'Y sont très différents, mais il reste quand même des régions qui gardent une homologie et où la récombinaison peut continuer à avoir lieu. Donc, voilà le cas. Et puis le cas extrême, c'est chez la drosophile ou en tout cas chez Melanogaster, le Y est totalement différent du X. Et donc, on a tous ces cas différents. Et la question qui se pose aujourd'hui, pour ce cours en tout cas, c'est à quel point est-ce qu'il faut avoir une compensation de dose entre les sexes et entre les chromosomes sexuels et le reste des autosomes. À quel point c'est important et comment ça peut évoluer. Et donc, j'ai mentionné à la fin du dernier cours qu'effectivement, il y a différentes approches qui ont évolué pour arriver à cette compensation de dose. Alors, je voulais quand même commencer juste avec... J'ai touché sur ce point la semaine dernière, mais je voulais le souligner. Est-ce que c'est important d'avoir la bonne dose des gènes? Est-ce que c'est un problème d'avoir un chromosome supplémentaire, une copie supplémentaire ou une copie de moins? Donc, une copie de moins, on appelle ça la monosomie, et la trisomie, c'est une copie supplémentaire. Donc, je vous avais déjà parlé la semaine dernière de la trisomie 21, qui est la seule trisomie qui est viable jusqu'à l'âge adulte, et donc c'est le syndrome de Downs. Et donc, on le sait, en tout cas chez les mammifères et dans d'autres organismes, qu'effectivement, avoir un chromosome, une seule copie d'un autosome ou une copie supplémentaire est très souvent létal pour le développement normal d'un organisme. Bien sûr, dans des cellules cancéreuses ou dans des cellules dans une boîte de pétri, on peut trouver là des aneuploïdies, on appelle ça des aneuploïdies, et on peut étudier l'évolution de ces aneuploïdies. D'ailleurs, je vais revenir sur ça dans un de mes prochains cours, parce que c'est très intéressant de voir comment, dans une boîte de pétri, on peut voir l'évolution de ce qui est toléré ou pas, ou dans un tumeur, bien sûr. Mais en tout cas, pour le développement normal d'un organisme et de la reproduction, il faut avoir la bonne dose. Et nous savons que même pour certains gènes, même l'absence d'un gène ou une copie supplémentaire peut poser des problèmes. On appelle l'absence d'une copie d'un gène qui pose un problème, on appelle ça l'haploinsuffisance. Donc on pense qu'effectivement, il faut le bon équilibre de production des gènes. Ce n'est pas simplement avoir l'ADN en copie suffisante, c'est bien sûr l'expression de ce gène au bon moment et au bon niveau, c'est-à-dire la bonne quantité de protéines, si c'est un gène qui code pour une protéine, ou d'ARN, si c'est un gène qui produit simplement un ARN. Mais en regardant, on réalise qu'effectivement, il y a certains types d'aniploïdies qui sont tolérés, en tout cas pour certaines parties du génome. On peut avoir des duplications ou même des absences. Donc, on appelle ça des copy number variants, CNV. Et on sait qu'effectivement, ça peut être toléré plus ou moins bien. Ça peut donner lieu à des maladies ou à des syndromes, mais ça peut aussi ne pas donner lieu à un phénotype quelconque. Et donc, en fait, on réalise qu'il y a des mécanismes, des stratégies de compensation de doses qui existent dans les organismes et dans les cellules. Et par exemple, même pour la trisomie 21, nous savons que quand on regarde le niveau d'expression des gènes, il n'y a que 200 ou 250 gènes sur ce petit chromosome. Et nous savons qu'il y a certains qui montrent une augmentation de 1,5 fois quand il y a 3 copies, comme attendu, mais il y en a d'autres où on ne voit pas cette augmentation. Donc ça veut dire qu'il y a une manière de compenser, de tamponner cette surexpression. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, bien sûr, les chercheurs maintenant. Pourquoi certains gènes arrivent à avoir ces mécanismes de tamponnage et d'autres pas. Et ce qu'on réalise, par exemple, avec la trisomie 21, c'est effectivement, on voit que non seulement les gènes du chromosome 21 sont touchés, mais bien sûr, d'autres régions du génome sont touchées, parce que les produits des gènes de ce chromosome 21 code pour des facteurs, des protéines ou des ARN, des micro-ARN qui peuvent réguler d'autres parties du génome. Donc on perturbe quand même l'expression de tout le génome. Mais on a aussi une compensation, clairement. Dans le cas des individus avec la trisomie 21, les individus sont quand même relativement en forme, malgré ces symptômes. Donc on sait que pour certains gènes, c'est très important d'avoir une compensation de dose, et il y a des mécanismes qui ont évolué, pour d'autres pas. Alors, dans le cas des chromosomes sexuels, au cours de l'évolution, l'idée, c'est qu'effectivement, le X et le Y commencent à être de plus en plus divergents. Et comment tolérer une seule copie du X chez le mâle, deux copies chez la femelle, donc un X par rapport à deux copies de chaque autosome, et puis la différence entre les mâles et les femelles. Donc c'est à deux niveaux que cette question de compensation de dose se pose. Et je vais passer beaucoup de temps cette semaine en parlant de ça. Donc je vais venir sur les deux premières, historiquement, quels sont les deux premiers exemples de compensation de dose qui ont été décrites. Mais le premier exemple, je l'ai cité déjà la semaine dernière, c'était chez la drosophile. C'était Müller qui a remarqué que pour un gène situé sur le X et qui va varier ou changer la couleur des yeux de la mouche drosophile, les femelles qui ont deux copies de ce gène et les mâles qui ont une seule semblent avoir la même couleur, alors que dans des situations anormales, mais où on peut avoir trois copies, on voit qu'il peut avoir une couleur plus accentuée, et quand il y a une seule copie, on a une couleur plus faible. Donc en fait, il a déjà proposé que peut-être entre les femelles et les mâles, il y a une compensation de dose, et c'est lui qui a utilisé cette terme, en 1947. Et c'était quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, que un scientifique canadien, Barr, a remarqué que dans des cellules femelle de chat, de neurones de chat, et puis ensuite dans d'autres types de cellules, il a remarqué ce corpuscule qu'on appelle maintenant le corpuscule de Barr, qui était hétéropycnotique dans le noyau. Donc l'ADN est marqué ou coloré en noir, et vous voyez ce petit point qu'il appelait corpuscule de Barr. Et en fait, c'était Susumu Ono qui avait déjà fait le lien avec la chromatine sexuelle, donc potentiellement le chromosome X. Et donc, il a décrit dans plusieurs papiers, et en particulier, il a décrit ça aussi dans des cellules humaines, soit dans des tumeurs, soit dans des tissus normaux, qu'effectivement, il y a ce corpuscule de Barr qui peut apparaître et parfois peut être en plusieurs copies. Donc, dans des individus ou dans des cellules qui ont plusieurs chromosomes X, on peut voir plusieurs corpuscules de Barr. Et il a fait le lien, effectivement, avec les chromosomes sexuels et la potentielle inertie de ce chromosome, parce que c'était hétérochromatique. Et comme d'autres régions dans le noyau qui étaient connues comme étant un peu silencieux, et c'était déjà étudié, on a couvert tout ça il y a 2 ans dans mes cours, effectivement, il a proposé que peut-être c'était une inertie liée à cette chromatine sexuelle. Et il a même justement parler de cette différence fonctionnelle entre deux homologues, deux X, qui peuvent être identiques dans la même cellule, alors qu'il y en a un qui semble avoir ce problème énigmatique qui était cette présence de un qui était plus hétérochromatique. Donc il y était presque. Il avait presque réalisé, peut-être il avait réalisé, mais ce n'était pas dit de manière explicite dans ses papiers. Il n'a pas postulé qu'un des deux X inactifs au cours du développement. C'était à peu près en même temps, et c'était la généticienne Mary Lyon qui, elle a fait cette connexion entre le corpuscule de Barr, la chromatine sexuelle, et le fait qu'il y avait un X des deux qui était sans doute silencieux dans des individus femelles. Donc voici son papier, c'est tout, même pas une page, hein. Gene action in the X chromosome of the mouse. Pas de figure. À l'époque, on ne faisait pas ça. Il n'y avait pas de figure. Et puis, elle avait vraiment mis les bases de cette proposition qu'un des deux chromosomes X doit s'inactiver pour arriver à une compensation de dose entre les deux sexes. D'ailleurs, elle a plus explicitement parlé de compensation de dose un an plus tard dans un papier qui était un peu plus grand, plus important. Et donc, l'hypothèse était qu'effectivement, cet X hétéropycnotique que Barr avait remarqué était génétiquement inactif, qu'il pouvait être soit paternel ou soit maternel dans différentes cellules de l'animal. Et alors, je ne sais pas pourquoi c'est ça. Et donc, c'est pour ça, c'est comme ça qu'il avait d'ailleurs identifié. C'était en regardant les gènes liés à la couleur de pelage ou d'autres phénotypes qui étaient sur le X. Et elle voyait que les mâles, par exemple, pour ce gène en particulier, qui s'appelle mottled, les mâles étaient très, très atteints avec un pelage assez blanc, alors que les femelles n'étaient pas atteintes. Donc, c'est une mutation qui a pas mal d'impact sur le bien-être des mâles, mais chez les femelles, il n'y avait pas d'impact particulier ou pas frappant, mais le pelage était bigarré, un mélange entre ce pelage blanc et un pelage sauvage, on va dire, marron. Et donc, elle avait proposé que ce gène mutant soit était exprimé, soit il était inactivé en fonction des cellules. Et donc, elle a proposé qu'effectivement, au cours du développement, un des deux chromosomes X était inactivé et ensuite, cet état était propagé. Elle a aussi parlé du fait qu'effectivement, les souris XO sont des femelles normales. Donc, elle a, sur cette base, proposé que les femelles n'ont besoin qu'un d'un X pour développer normalement. Alors, c'est le cas chez la souris et c'est moins le cas chez l'humain. Et on va revenir sur ça dans les prochains cours. Et donc, ici, je vous montre un autre exemple de mosaïcisme chez une femme. C'est un autre gène que Mary Lyon avait étudié, TABI, et qui est impliqué dans un syndrome qui s'appelle ectodermal dysplasia. Et ici, vous voyez qu'il y a des plages de cellules de la peau de cette femme qui sont affectées et d'autres pas. Et donc, très vite, les chercheurs ont commencé à regarder avec les techniques qui existaient à l'époque, dans les années 60, pour voir comment les protéines dans des cellules se comportaient. Et en fait, et ça c'est quelque chose que je vous avais déjà décrit il y a quelques années, mais ici vous voyez pour un gène qui est sur le X, G6PD, c'est un gène qui est, un gène de ménage, on appelle ça, qui est très important dans quasiment toutes les cellules de notre corps. Et donc G6PD peut être en deux formes, deux isozymes, on appelle ça, et on peut les distinguer par électrophorèse, ces deux isozymes. Et donc les chercheurs ont regardé dans des cellules clonales issues de personnes, d'individus, et ils ont vu qu'effectivement, on peut avoir soit l'un, soit l'autre, mais pas forcément les deux quand il s'agit d'une cellule clonale en culture. Donc l'idée était qu'effectivement, un des deux allèles est éteint et ceci est stable au cours des divisions cellulaires. Donc maintenant, on peut regarder par d'autres moyens beaucoup plus modernes. On peut regarder les protéines étiquetées de manière fluorescente. On peut aussi regarder au niveau des transcrits, l'ARN qui est produit à partir de ces gènes et qui peut être polymorphe parce que, bien sûr, on a beaucoup de polymorphisme, en tout cas chez l'humain et aussi parfois chez la souris, qui nous permet de distinguer les deux X et les deux allèles de tous les gènes. Et donc, je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Et donc, c'était à la suite de cette proposition de Mary Lyon, qui était juste une hypothèse en 1961, et après, elle est devenue une loi, donc on appelle ça la lyonisation du chromosome X. Mais c'était Ono, il avait postulé sur la base de cette proposition et cette inactivation du chromosome X chez les femmes. C'est sur cette base qu'il est venu avec son hypothèse que j'ai déjà mentionnée la semaine dernière, c'est que effectivement, si les chromosomes sexuels évoluent à partir de deux autosomes, avec le proto-Y et le testis determining factor qui apparaît, et que le chromosome Y commence à dégénérer, il y a une région qui ne va plus pouvoir récombiner, il y a un besoin peut-être de compenser pour le dose de cette région qui devient seule, la région du X qui n'a plus de partenaire sur le Y. Et donc il a proposé que, bien sûr, il faut inactiver un des deux X pour égaliser les doses entre les mâles et les femelles, mais il a aussi proposé que peut-être il fallait augmenter l'expression de ces régions afin de pouvoir compenser par rapport à tous les autres autosomes qui sont présents dans la cellule. Au cours de l'évolution, que peut-être le X allait augmenter le niveau, la quantité d'expression de ces gènes, justement pour tolérer cet déséquilibre qu'on voit par rapport aux autosomes qui sont, eux, qui restent toujours en deux copies. Et c'est tout un débat. Mais donc, on va venir petit à petit sur ce débat. Mais en tout cas, Ono a proposé ça en 1967 dans ce livre. Et c'est quelque chose qui semblait être tout à fait logique. Et voilà, donc ici je le décris plus précisément, qu'avec cette dégradation du Y, il fallait augmenter l'expression de la région qui n'était pas homologue à l'Y, donc qui n'était plus appariée. Et qu'il fallait faire ça chez les mâles et les femelles, et donc il fallait dépasser ou, comment dire ça, bypasser, enfin, tolérer ça en faisant une inactivation de un des deux chromosomiques chez les femelles. Et c'était ça son point de départ. On savait que ça se passait, mais donc comment le reste était expliqué. Et donc, la question à cette époque-là, en 1967, c'est est-ce qu'il y a d'autres organismes, les autres organismes pour lesquels on pensait qu'il y avait une compensation de dose, est-ce que c'est fait de la même façon? Est-ce qu'on inactive un des deux X chez les femelles et est-ce qu'on augmente la régulation du X par rapport aux autosomes? Et donc, pour revenir sur la drosophile, c'était le premier système où la compensation de dose était ensuite étudiée de manière plus détaillée. Donc ici, je vous rappelle, effectivement, les femelles et les mâles, XY, le Y qui n'a plus d'homologie du tout avec le X, et cette proposition de Müller qu'il y avait, il devait avoir une compensation. Et donc, les chercheurs ont commencé à regarder. Donc, en 1965, c'était le papier de Mukherjee et Biermann qui étaient les premiers à essayer de regarder le niveau de transcription en marquant de manière radioactive l'ARN qui provenait du chromosome X et en regardant le X dans des cellules mâles ou dans des individus mâles par rapport à l'X dans des individus femelles. Et ils faisaient ça dans des chromosomes qui étaient des polytènes, où là, c'est quelque chose de particulier à la drosophile. On trouve ça dans d'autres systèmes aussi, où on a plusieurs copies ensemble d'un chromosome. Et donc, c'est beaucoup plus facile cytologiquement de voir qui est qui. Et donc, en fait, c'était sur ce type de système de préparation que Mukherjee et Biermann avaient regardé. Et ils avaient vu qu'effectivement, il y avait peut-être une expression plus importante à partir du X chez les mâles que chez les femelles. Et ensuite, il y a eu l'isolement de mutants, et c'est ça la puissance de la drosophile, on peut faire l'analyse des mutants de manière très efficace. Et dans des mutants, Luciasi, le groupe de Luciasi avait proposé qu'il y avait peut-être, dans des mutants qui affectaient que les mâles, peut-être un problème au niveau de la transcription du chromosome X. Et donc la proposition est venue que peut-être les gènes sur le seul X chez les mâles exprimaient plus, peut-être deux fois plus, que ce qu'on voit sur les deux X, sur chacun des deux X chez les femelles. Et donc voilà, ça c'était le papier de Luciasi qui propose ça en regardant justement des mutants qui affectent cette régulation éventuelle de la transcription du chromosome X. Et une dizaine d'années plus tard, les chercheurs commençaient à avoir des outils pour détecter les changements de la chromatine. Donc ça, j'ai déjà mentionné les histones, les modifications des histones dans mes cours précédents, donc on y revient. Et donc, une des modifications des histones H4, vous voyez ici, c'est, vous vous rappelez, ça c'est le nucléosome, voilà les histones, et chaque histone a une queue qui peut sortir, qui est modifiée, et qui semble, et les modifications sur ces queues des histones semblent modifier l'activité transcriptionnelle, soit en changeant la structure de la chromatine, soit en permettant certains facteurs de venir s'associer plus facilement ou empêcher leur association. En tout cas, dans le cas de la drosophile et le X, Brian Turner a produit des anticorps qui détectent très spécifiquement cette lysine 16 acétylée et il a remarqué que quand on regarde les noyaux de cellules mâles de drosophile par rapport aux noyaux de cellules femelles, on voit que le X est très, très bien marqué par cette modification, alors que le X chez la femelle n'est pas marqué particulièrement. Donc, et cette modification était associée avec une activité transcriptionnelle plus importante, par ailleurs, chez la levure et dans d'autres systèmes. Donc, le lien avec cette hyperexpression du X chez le mâle et les modifications des chromatines est venu relativement rapidement. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est là où maintenant, avec les mutants et la biochimie, les chercheurs ont commencé à étudier les cascades qui sont impliquées dans cette probable hypertranscription du chromosome X chez le mâle. Donc déjà, il a été découvert qu'il y a un gène qui s'appelle sex lethal, qui est en fait la clé du déclenchement et de la détermination du sexe, et de la compensation de dose chez la drosophile. Et donc, ce gène qui est exprimé que chez les femelles, ce gène exprimé, il est sensible au taux, à la ratio de X par rapport aux autosomes. Donc, c'est que quand on a deux X qu'effectivement, ce gène peut être exprimé. Et il va pouvoir faire deux choses. Il déclenche la voie de différenciation sexuelle femelle et il va empêcher la constitution du complexe qui va faire la compensation de dose en inhibant la traduction, l'épissage et la traduction d'une protéine qui s'appelle MSL2. Alors ça, c'est chez les femelles. Chez les mâles, ce gène, il n'est pas exprimé. Et donc, du coup, cette protéine MSL2 peut être produite et on peut avoir le complexe de compensation de dose. Et par ailleurs, le fait qu'il n'est pas exprimé fait que la voie de différenciation sexuelle mâle peut être déclenchée. Donc, c'est le même signal au départ qui est sensible au nombre de chromosomes X, mais ensuite, qui va définir si oui ou non on devient femelle, mâle, et si oui ou non on aura compensation de dose ou pas. Mais ensuite, bien sûr, les voies sont différentes, les casquettes sont différentes. Et donc, cette protéine MSL, en particulier MSL2, a été tout de suite vue comme étant une protéine qui s'associe de manière très forte avec le chromosome X chez les mâles seulement. Comme ce que je vous avais montré tout à l'heure pour la modification de l'histone H4, on voit ici un marquage avec un anticorps pour MSL2 qui est très spécifique. Et puis, il a été découvert que d'autres protéines sont importantes, donc MSL3 et d'autres, et que quand on voit certaines de ces protéines au début de la mise en place de cette compensation de dose, on voit qu'ils s'associent avec certaines régions, en particulier du chromosome X. Et quand on délète certaines des protéines, on voit qu'il y a une association, mais pas une propagation aussi importante. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la compensation des doses chez la drosophile, mais je vais vous montrer qu'effectivement, le complexe est maintenant assez bien compris. Il y a plusieurs protéines, y compris MSL2 dont je vous avais parlé, qui est ici. Aussi des ARN non codons, les ARN ROX, qui sont associés avec la fixation et la stabilisation du complexe sur ce chromosome X chez les mâles. Et ce complexe ne peut se former que si MSL2 est produit. Si MSL2 n'est pas produit, certains des facteurs qui sont impliqués de son complexe sont présents, mais il ne va pas se former en complexe et aller se fixer sur le chromosome X. Donc chez le mâle, on a le complexe, et chez les femelles, on a certains des facteurs, mais ils ne sont pas en complexe, ils ne peuvent pas aller se fixer sur le chromosome X. Et en particulier, il y a une protéine MOF qui, elle, est une histone acétyltransférase. C'est cette protéine qui est déposée pour acétyler histone H4, la lysine 16 que je vous avais montrée tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres facteurs qui ont aussi des activités kinases et autres. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, l'idée, c'est que quand ce complexe est présent, il va aller se fixer sur le seul chromosome X qui est chez les mâles. Et via des mécanismes qui ne sont pas tout à fait encore compris, et on va élaborer un petit peu peut-être la semaine prochaine, mais il va induire des changements au niveau de l'organisation de la chromatine. Mais... donc voilà, ça c'est un résumé de ce que je viens de dire. Et donc en fait, un point important, c'est que le recrutement de ce complexe sur le X mâle est dû à un enrichissement de certains sites, c'est une séquence spécifique sur le X qui vont permettre un recrutement plus efficace. Et donc, ces protéines peuvent aussi s'associer à d'autres chromosomes, mais de manière plus efficace sur le chromosome X. Et comment ça marche? Comment on augmente par deux l'expression? Donc, c'est toujours un débat assez agité dans le domaine. Mais un des modèles actuels est que, en fait, ce complexe, quand il s'associe au chromosome X, il permet, on va dire, une augmentation de la transcription et surtout de l'élongation de la polymérase sur des gènes sur le X. Donc la polymérase est là et vous voyez sur un autosome comment elle est enrichie et l'ARN qui est produit. Et en présence de ce complexe MSL et en particulier le lien avec l'acétylation de la lysine 16 de histone H4, qui augmente, plus on va dans le gène, plus on voit une augmentation de cette marque chromatinienne. Donc l'idée, c'est que peut-être le complexe permet une augmentation de la libération de la polymérase au début et puis de son élongation. Donc on voit une augmentation de plus en plus importante. C'est comme si on avait un frein à main, on essaie de faire bouger la voiture et puis on enlève la frein à main un moment et la voiture va très très vite et augmente ainsi la quantité d'ARN qui est produit et donc la quantité de protéines. C'est un modèle. les chercheurs continuent à vraiment essayer de comprendre comment ça marche, et vous allez voir qu'il y a même des chercheurs qui doutent que ça se passe comme ça. Je vais revenir sur ce point dans un instant. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cytologiquement, le chromosome X actif et hyperactif, si on veut, chez le mâle, est organisé et a un état de chromatine qui est différent des deux X qui se trouvent chez la femelle. Ça, c'est évident. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à l'X chez les mâles ou est-ce qu'il y a des différences plus globales chez les mâles par rapport aux femelles? Ça, c'est un point qu'on va discuter. Alors, ce que je viens de vous montrer, c'est que déjà, entre les mammifères et la drosophile, la situation est totalement différente. Alors que chez les mammifères, on est inactif un des deux X chez la femelle, je viens de vous montrer que chez le mâle, c'est le X chez le mâle, chez la drosophile, c'est le X chez le mâle qui est peut-être plus exprimé pour arriver à une égalité entre les sexes. Qu'est-ce qui se passe pour le ver Caenorhabditis elegans? Donc ça, c'est l'autre organisme modèle qui a été vraiment beaucoup étudié. Et là, la situation au niveau des chromosomes sexuels est un petit peu différente parce qu'il y a des hermaphrodites XX qui produisent des ovocytes et du sperme et il y a des mâles XO. Il n'y a pas de chromosome Y chez ces élégances. Alors, comment on fait pour avoir un mâle plutôt que rester hermaphrodite? En fait, c'est la perte de temps en temps du X qui fait qu'on arrive à un individu qui est XO et qui est donc purement mâle, ne produit que du sperme et pas des ovocytes. En tout cas, il y a clairement une différence entre les individus XX et XO au niveau de l'expression des gènes du X et comment est-ce qu'on arrive à avoir une compensation de dose chez ce système. Et donc, il a été réalisé assez rapidement avec les analyses, l'étude de ce ver avec les grands scientifiques qui ont décidé d'attaquer ce ver comme un système modèle pour comprendre l'embryogenèse et le destin de chaque cellule, donc Sydney Brenner, Hodgkin, Horvitz. Donc en fait, il a été réalisé qu'effectivement, les vers XX et XY, XO, ont des réels besoins de compenser parce qu'il y a des mutants effectivement qui empêchent la croissance normale d'un ver qui impactent sur le développement de l'expression à partir du X. Donc ces mutants qui sont sexe spécifiques, qui sont souvent létales mais parfois peuvent survivre, touchent en particulier les hermaphrodites XX. Les XO ne sont pas touchés. Et donc, il a été postulé qu'effectivement, c'est une perturbation de la compensation de dose qui conduit à une expression beaucoup plus importante dans ces mutants. Donc, ces mutants s'appellent Dumpy, et vous voyez ici, ils sont beaucoup plus petits, ils bougent moins, un peu plus gros. Donc, ça, c'est les rares survivants et qui ont ce phénotype parce qu'il y a une surexpression des gènes sous le X, on pense. Donc, comment on peut envisager la détermination du sexe d'un par et puis la compensation de dose? Comme chez la drosophile, en fait, c'est le même déclenchement au départ. Donc, déjà, il a été très vite les mutants qui affectent la compensation de dose et qui donnent ce type de phénotype ont été étudiés. Il a été réalisé qu'il y a un complexe de protéines qui est associé par ailleurs avec la condensation des chromosomes mitotiques et miotiques. Donc les facteurs impliqués semblent être très semblables à ce qu'on voit dans la condensation des chromosomes. Et donc en fait, il a été réalisé que ces facteurs qui semblent être impliqués dans la compensation de dose s'associent aux deux X chez les hermaphrodites. Et pas au seul X chez les mâles. Et donc l'idée qui est venue est que peut-être il y a une diminution d'expression des deux chromosomes X chez l'hermaphrodite par rapport au mâle XO. Et en particulier, il a été montré qu'effectivement, ce complexe de plusieurs protéines qui sont aussi utilisées par ailleurs pour la condensation des chromosomes, ce complexe semble être ciblé au chromosome X via des petites séquences d'ADN très spécifiques qui sont là pour recruter ces complexes de manière spécifique, mais que chez les XX. Donc comment ça marche ? Comme je disais, comme chez la drosophile, en fait, la détermination du sexe et le déclenchement de la compensation de dose est géré par le même départ. Donc ici, il s'agit de la protéine CDC2 qui semble être, qui n'est pas exprimée de manière maternelle, c'est-à-dire la protéine n'est pas présente dans l'œuf fécondé, mais qui commence à être exprimée, la protéine est présente environ à 40 cellules. Ici, vous voyez l'expression, la présence de cette protéine qui est présente sur les 2X dans des embryons précoces. Et c'est cette protéine qui donne la spécificité du complexe de compensation de dose, et c'est cette protéine aussi qui inhibe le gène R1 qui est responsable de la détermination du sexe mâle. Donc en fait, c'est la même protéine qui, quand elle est exprimée, va déclencher compensation de dose dans les individus avec 2X et va réprimer le gène R1 qui, normalement, va conduire à la détermination de sexe masculin. Et comment ça peut se produire? Ben, comme je disais, comme chez la drosophile, c'est le ratio de chromosome X au nombre d'autosomes qui est important. Et quand le ratio entre les facteurs qui viennent du X par rapport à des facteurs qui viennent des autosomes sont présents, quand il y a un ratio XXAA, donc 1 de 1, nous avons une faible dose d'une protéine qui s'appelle xolin qui va permettre la production de cette protéine CDC2 qui, elle, va donc permettre la constitution de ce complexe de compensation de dose et qui va inhiber la voie mâle. Alors que quand la ratio entre X et A est plutôt 0,5, donc un seul X pour deux autosomes, là, xolin peut être exprimé, SDC2 ne va plus être exprimé à un haut niveau, donc la protéine R1, le gène R1 est exprimé et on a une différenciation vers les voies masculines et il n'y a pas de production de complexe de compensation de dose. Donc ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment grâce à la génétique qu'on peut arriver à ce type de cascade. Et maintenant, la question, c'est comment ce complexe agit réellement au niveau de la chromatine. Et c'est là où les chercheurs sont toujours en train d'essayer de comprendre. Mais en tout cas, comme je l'ai mentionné, le complexe, quand il est assemblé, va aller chercher des séquences très spécifiques au niveau du chromosome X. Donc, il y a des sites qu'on appelle REX. Donc, vous voyez ici une séquence consensus qui est ciblée par ce complexe. Et ensuite, il y a d'autres sites qui sont moins efficaces, mais qui permettent la propagation. Et donc, on pense qu'effectivement, au début, il y a la reconnaissance du chromosome X via ces sites. Et ensuite, il y a peut-être une sorte d'embobinage qui fait que le complexe peut aller s'installer à d'autres régions. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une propagation progressive au niveau de tout le chromosome X qui change donc de conformation et d'état chromatinien. Et c'est les 2X qui sont affectés chez la femelle. Et donc là aussi, nous avons maintenant les outils qui permettent de voir que les 2X ont une conformation très différente chez l'hermaphrodite par rapport au seul X chez les mâles. Et là aussi, je vais vous parler de cette formation, de cet état, on va dire, ce n'est pas l'hétérochromatine pure, mais c'est quand même une chromatine qui est moins active par moitié que le X qui est seul chez les mâles. Donc c'est assez fascinant, je pense, de trouver des moyens de pouvoir baisser par moitié ou augmenter par deux fois l'activité d'un chromosome X. Et c'est là où l'épigénétique, les marques chromatiniens et l'organisation des chromosomes devient extrêmement important pour cette finesse de dosage. Donc voilà, pour résumer les trois cas, on va dire cas d'école presque, c'est les organismes que nous étudions depuis des décennies et sur lesquels on a le plus de données. On a trois manières très différentes, trois stratégies très différentes l'inactivation d'un des deux X chez les mammifères, chez la femelle, la baisse par moitié de l'activité des deux X chez C. elegans, et puis l'augmentation du X chez le mâle, chez la drosophile. Néanmoins, et ça je vais vous montrer un peu plus dans un instant, on réalise que même si entre les sexes, le niveau global de production, d'expression des gènes sur le X est équivalent entre les sexes, dans les trois systèmes, il y a quand même des biais d'expression sexuelle. Bien sûr, ce qui vient du Y, et puis au niveau du X, on a aussi des biais. Et bien sûr, dans les cellules ou dans les tissus qui sont liés à la différence sexuelle, comme les gonades, mais aussi dans d'autres tissus. Et en particulier pour le X chez les mammifères, on réalise de plus en plus qu'il y a une expression mono- ou biallélique des gènes sur le X, à partir du X inactif, une expression à partir du X inactif, qui peut varier et qui est peut-être impliqué dans certaines caractéristiques femelles spécifiques ou qui peut aussi être impliqué dans certaines maladies ou syndromes. Et je voulais quand même dire un mot sur les techniques que nous utilisons maintenant. Donc, en fait, et pourquoi c'est un sujet qui reste quand même assez controversé, à quel point on a une compensation de dose pour les chromosomes sexuels. Alors, entre les sexes, c'est relativement facile. Et donc, les études qui ont été faites au départ, c'était en prenant ce qu'on appelle le cDNA, c'est une copie reverse des transcrits. Donc, on prend l'ARN des mâles et l'ARN des femelles, on fait une copie par la reverse transcriptase. Si vous vous rappelez de mes cours de... il y a deux ans, on a parlé beaucoup de la reverse transcriptase qui était découverte grâce aux études sur le cancer. Mais en tout cas, la reverse transcriptase nous produit une copie ADN de l'ARN qu'on avait et de manière relativement quantitative. Donc, si on prend cette copie ADN de l'ARN, de la population de l'ARN qui existe chez les mâles et les femelles, et on mélange et on met sur une puce d'ADN pour différents gènes, on voit que les mâles et les femelles, dans la plupart des cas, ont la même chose, mais parfois, il y a une différence d'expression. Donc, quand c'est jaune, ça veut dire que c'est équivalent, parce que c'est le signal vert et rouge mélangé, mais quand il y a plus de vert ou plus de rouge, vous voyez que c'est différent. Donc, ça, c'était vraiment les techniques qui ont été utilisées pendant plusieurs années et qui ont permis de voir qu'il y a parfois des biais. Il y a une équivalence globalement entre mâles et femelles, mais il y a des biais pour certains gènes. Et puis, maintenant, nous avons passé au séquençage au débit des ARN ou des cDNA, et donc le RNA-seq, qui est vraiment l'outil qui nous permet de regarder des transcriptomes entiers d'individus et maintenant même des simples cellules. Donc, pendant très longtemps, les gens regardaient, enfin très longtemps, pendant quelques années, les gens prenaient les tissus mâles et femelles et étudiaient les différences de transcriptomes. Donc, c'était à la limite plus sensible, mais aussi plus compliqué parce qu'il y avait aussi ce qu'on appelle du bruit, peut-être beaucoup plus de transcrits qui pouvaient varier. Et en particulier, quand on prend les tissus entiers, on a un mélange de cellules et donc c'était difficile de conclure. Mais globalement, ce qui est sorti, c'était en tout cas pour la compensation de dose entre mâles et femelles, pour les gènes liés à l'X en particulier, il y avait globalement une compensation. Par contre, là où c'était plus compliqué, c'était pour cette histoire de surexpression du X par rapport aux autosomes que Ono avait postulé. Oui, là ici, c'était juste pour compléter, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà comment on peut lire à partir d'un séquençage qui vient d'expression d'un gène. Si on regarde des gènes où les deux copies sur les deux chromosomes, deux chromosomes X, il y a deux autosomes, s'il y a un polymorphisme dans la séquence, on peut distinguer ce qui vient d'un allèle par rapport à ce qui vient de l'autre allèle et on peut le mesurer de manière très précise, combien de fois on voit l'ARN dans la lecture séquencée. Donc, c'est une manière relativement quantitative. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de considérations à prendre en compte quand on veut mesurer l'expression ou la surexpression de gènes par rapport au reste du génome. On appelle ça des questions de normalisation. Et c'était justement sur ces points où il y a eu pas mal de différences dans les papiers qui sont sortis par rapport à la compensation de dose. Donc, en tout cas, en utilisant ce type d'approche, les chercheurs ont commencé à regarder à quel point, mis à part la drosophile, le C. elegans et l'humain, à quel point il y a une compensation de dose entre les sexes. Et en fait, la surprise, c'est que même si, comme je l'ai dit, chez les mammifères, il y a une compensation de dose globalement. Et ici, juste pour vous montrer ce qui est montré, c'est la fréquence des gènes avec les ratios mâles sur femelles d'expression qui sont montrés. Et ici, c'est le point zéro. Et donc, quand il y a le pic à zéro, ça veut dire que l'expression est quasiment équivalente. Et donc, quand il s'agit des gènes sur les autosomes, mâles versus femelles, bien sûr, la plupart, dans tous les cas, on voit que l'expression est sur le point zéro, c'est-à-dire on a l'expression équivalente entre mâles et femelles pour les gènes qui sont sous les autosomes, pour quasiment tous les gènes. Pas tout à fait tous, mais quasiment tous. Mais pour les chromosomes sexuels, que ce soit le X chez les mammifères ou que ce soit le Z chez les oiseaux, les serpents, on voit que dans la plupart des cas, chez les mammifères, on a une équivalence. Effectivement, ça, c'est en rouge, le A0. Chez les marsupiaux, il y a quand même une légère différence entre femelles et mâles. Chez les oiseaux, on voit c'est quand même assez près de zéro, mais il y a quand même une différence. Et puis chez les serpents, on voit ici que par exemple chez le boa, il y a quasiment pas de compensation de dose. Chez les individus qui ont deux Z, on a beaucoup plus d'expression. Alors que chez d'autres serpents, il y a une équivalence. Donc, en fait, la question de compensation de dose entre les sexes est beaucoup plus compliquée qu'on imaginait, juste en regardant l'humain ou la drosophile. Il y a une compensation de dose entre les sexes pour la plupart des mammifères, mais pas toutes. Et c'est assez partiel pour les oiseaux. Et entre les serpents, ça peut varier beaucoup. Et en particulier, pour le boa, effectivement, le chromosome Z n'a pas vraiment divergé du chromosome W. Et donc, en fait, il n'y a quasiment pas de compensation. Donc, en fait, il est clair que ça varie énormément en fonction de la taille des chromosomes sexuels et en fonction des organismes. Et ici, c'est juste pour vous montrer encore les mammifères où... Même si chez l'humain et la souris, les études suggèrent que la compensation de dose affecte quasiment tout le chromosome, et chez les marsupiaux aussi, par contre, chez le platypus et les monotrèmes, on voit qu'il y a une compensation quasi incomplète et qui est très variable entre les gènes. Donc, en fait, cette compensation de dose à l'échelle de chromosomes sexuels est probablement plutôt une exception qu'une règle. Donc, si je reviens sur l'hypothèse d'Ono, je vous avais montré ça la semaine dernière. L'idée, c'est à partir de deux autosomes, les chromosomes sexuels et la dégénération du Y, petit à petit, il y a un besoin d'augmenter l'expression du X dans des individus XX, XY. Et donc, cette compensation de dose, je l'ai déjà dit, mais je voulais quand même être sûre que vous avez compris, il s'agit de deux formes qui sont souvent confondées. Un, c'est d'équilibrer le niveau d'expression entre les sexes, les individus qui sont mâles et femelles. Et ça, on en a parlé. L'autre, c'est peut-être d'équilibrer le niveau d'expression par rapport aux autosomes au cours de l'évolution. Et c'était là surtout que l'hypothèse d'Ono était un peu aventurière, on va dire. Et donc, est-ce qu'il y a réellement des évidences qu'il y a une surexpression de l'X par rapport aux autosomes chez le mâle ou même chez le femelle dans différents organismes? Donc, chez la drosophile, ça semble être le cas le plus simple parce qu'effectivement, c'est là où la compensation de dose entre les sexes est faite et donc la compensation de dose par rapport aux autosomes peut être aussi faite. Mais en fait, ça reste très controversé. De plus en plus d'études maintenant qui peuvent regarder le transcriptome entier réalisent que c'est pas évident qu'il y a réellement une surexpression du X qui peut être compensée par une inactivation d'un X chez les femelles et une baisse d'expression des deux X chez les hermaphrodites, chez C. elegans. Les études ont été menées à plusieurs niveaux, mais je voulais revenir sur la drosophile, où là, on a l'impression que c'était évident que c'était acquis, vu toutes les données qui ont été publiées. Et je voulais revenir sur une une hypothèse alternative par rapport à la compensation de dose chez la mouche drosophile. En fait, ça s'appelle l'hypothèse inverse. Et ce que Jim Birchler, qui est le scientifique qui a formulé cette hypothèse, a réalisé en regardant des mouches, et là il s'agit de ce gène qui affecte la couleur des yeux, le mini-white, qui est sur le X dans ces individus, chez un mâle, chez une femelle ou chez ce qu'on appelle une métafemelle, qui a 3X, et dans chacun de ces individus, un seul X porte ce gène qui produit cette coloration. Et donc, il a remarqué qu'effectivement, chez le mâle, il y a une coloration plus importante quand ce gène est sous le X que par rapport à la femelle quand il y a une seule copie. Hein. Dans le cas de Müller que je vous avais montré tout à l'heure, il y avait deux copies. Hein. Donc là, on parle d'une seule copie. Donc un X chez la femelle et un X, le seul X chez le mâle. Et on voit qu'il y a une coloration plus importante chez le mâle et moins importante chez la femelle. Et chez les métafemelles, où il n'y a pas de complexe MSL, ni chez la femelle, c'est encore moins important. Donc ça veut dire qu'il y a une compensation de dose, peut-être, qui n'a rien à voir avec le déclenchement du complexe MSL. Et par ailleurs, Birchler a aussi regardé des mouches, et ce n'est pas que lui, en fait, c'était Stein dans les années 60, où ce gène est sur un autosome cette fois-ci, donc en deux copies, chez un mâle, chez une femelle et chez une métafemelle. Et là, pareil, alors que le gène n'est même pas sur le X, il voit que c'est beaucoup plus exprimé chez le mâle que chez la femelle ou encore moins chez la métafemelle. Donc ça perturbe les gens. Enfin, par ailleurs, la plupart des gens qui travaillent sur la compensation de doses, je pense, ne revisitent pas forcément ces données-là, mais Birchler l'a fait. Et donc l'idée, c'est que peut-être c'est l'équilibre ex-autosome qui est en fait ajusté pour compenser. Il ne s'agit pas seulement de recruter le complexe MSL sur le seul X chez le mâle, mais que peut-être le rôle de ce recrutement chez le mâle est de justement ajuster par rapport à ce qui se passe sur les autosomes. Et donc, pour faire simple, lui, il postule que s'il y a un seul X qui évolue finalement chez les mâles par rapport aux autosomes, qu'il y a une compensation par rapport à tous les autosomes d'augmenter leur expression aussi. Et que pour justement gérer ça, MSL va prendre les histones acétyltransférases comme MOF et les mettre sur le chromosome X chez le mâle. Donc, le mâle a une capacité peut-être de surexprimer tout, presque. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas tout à fait accepté. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller lire ces papiers, une revue en particulier, que je trouve assez inspirante. Et ça pose la question de comment ces mesures d'expression sont faites, alors que le phénotype que vous voyez là est assez clair, mais maintenant, comment on mesure le niveau d'expression à partir du X par rapport au niveau d'expression par rapport à des autosomes. Et la plupart des cas, comme je le disais, on prend des tissus entiers ou même les cellules en culture. Mais en fait, il faut être beaucoup plus fin que ça. Il faut aller in vivo et regarder cellule par cellule quel est le niveau d'expression des gènes à partir du X et à partir des autosomes dans un mâle, dans une femelle, et faire des mesures. Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'on imaginait. Et en fait, il y a peu d'études, enfin pas d'études à ma connaissance chez la drosophile, en tout cas qui ont été faites de cette façon-là, où il faut vraiment contrôler la quantité qu'on mesure et ne pas juste se normaliser ou se fier sur des comparaisons. Je ne sais pas si j'étais complètement claire là, c'est compliqué, mais en tout cas, je voulais quand même s'aimer un tout petit peu de doute dans vos têtes par rapport à la manière que ça se passe chez la drosophile. En tout cas, ça c'est juste un exemple, mais il y a d'autres exemples chez les mammifères et ailleurs, qui propose que peut-être cette hypothèse de non, elle n'est pas tout à fait vraie. Et donc, je vous montre deux papiers ici qui ont révisité les transcriptomes qui ont été faits, qui prétendaient ou qui proposaient que peut-être il y a une surexpression du chromosome X par rapport aux autosomes chez les mammifères. Et ce qu'ils ont regardé en réanalysant ces données, c'est en fait il y a plutôt des évidences que le niveau d'expression est moindre, qu'il n'y a pas une augmentation d'expression à partir du X sauf pour certains gènes, très peu de gènes, peut-être 5% des gènes sur le X. Et de manière très intéressante, ces gènes sont très souvent codes pour des protéines qui forment des complexes très importants, où on pense qu'il y a une stoichiométrie qui doit absolument être préservée, ou avoir un peu moins d'une protéine qui vient du X au cours de l'évolution pourrait perturber tout le complexe. Et donc l'idée, c'est que peut-être il y a certains gènes pour lesquels, qui sont très sensibles aux doses, où l'expression a effectivement été augmentée au cours de l'évolution sur le X pour justement permettre que le niveau de protéines équivalent pour former le complexe comme il faut. Et donc, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, on en avait parlé en 2015 dans les cours sur le cancer, des complexes de remodelage où il suffisait qu'une seule mutation d'un gène qui codait pour une de ces protéines faisait que le complexe peut-être ne fonctionnait plus. Et ça, c'est un petit peu cette même idée. Une copie de moi fait un peu moins de protéines et peut perturber complètement le complexe. Donc l'aplomb insuffisance est très importante. Et là, vous ne le voyez pas, mais dans un papier par ce groupe français, d'ailleurs, ils ont regardé quels sont les gènes en fait, qui sont plus sensibles au dosage. Et en cherchant les gènes qui font partie des complexes protéiques importants, avec plus que 7 membres, ils ont vu que là, effectivement, il y a une surexpression sur le X de ces gènes, mais pas des autres. Et quels sont ces facteurs? Bon, ben, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, voilà, je vous les mets, mais il y a beaucoup de ces facteurs qui, soit ils ont un homologue sur le Y, mais pas forcément. Et par exemple, pour ce facteur-là, il est impliqué dans, justement, un complexe chromatinien. Et donc, je vous montre ici, voilà le complexe, ça s'appelle le complexe NERD. En fait, ce facteur, il est présent dans plusieurs complexes qui sont importants pour le remodelage de la chromatine. Et clairement, lui, il semble être beaucoup plus sensible. Il est codé par un gène sur le X et son expression est augmentée justement pour être sûr que chez les mâles et chez les femelles, et par rapport aux gènes, les protéines qui sont exprimées à partir des gènes sur les autosomes, nous avons toujours les bonnes doses. Donc ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est assez raffiné, je trouve. Au cours de l'évolution, il faut quand même garder en compte, certaines choses doivent être bien conservées, et c'est surtout ces complexes qu'on ne peut pas les réinventer, il faut garder la bonne stoichiométrie. Donc voilà, en fait, là, c'est pour comment tester l'hypothèse d'Ono. Donc là, le test, en fait, pour la plupart des gènes, il ne tient pas. Donc il y a d'autres chercheurs, je pense que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais une autre manière de tester l'hypothèse d'Ono, c'est de regarder par rapport aux gènes ancestrales, avant que les gènes deviennent les gènes sur le X ou le Y chez les mammifères, par exemple. On peut les chercher, ces gènes, sur les autosomes, par exemple, chez le poulet. Maintenant qu'on a les séquençages des génomes, on peut aller regarder et on peut étudier les transcriptomes pour voir si ces gènes par rapport aux gènes sur les autosomes chez le poulet et par rapport à leur expression chez les mammifères, est-ce qu'on voit une expression plus importante quand ils sont sous le X? Et là, globalement, la réponse est non, sauf de manière intéressante, et ça, c'est l'étude. Alors, je pensais, je n'ai pas la référence. Pardon. Donc, c'est le laboratoire de Keisman, donc Julien et Tal. Ils ont fait cette analyse et ils ont montré que, par exemple, chez les marsupiaux, effectivement, les gènes sous le X semblent être quand même un peu plus exprimés par rapport aux gènes qu'ils étaient ancestrales sur les autosomes chez le poulet. Par contre, chez les mammifères placentaires utériens comme nous, il ne semble pas que ça soit le cas, sauf pour certains gènes très précis. Et par contre, ils ont détecté que peut-être il y a une répression de certains gènes autosomales qui interagissent avec les gènes liés à l'X. Donc peut-être il y a une compensation côté autosomale qui a évolué chez les mammifères avec l'évolution des chromosomes X, les gènes sur le chromosome X. Et en particulier, chez C. elegans, le vert, où là, on sait que la compensation de deux entre les sexes, c'est par cette baisse d'expression au niveau de X, là, pour le moment, il n'y a pas de l'évidence convaincante que, effectivement, le X a été surexprimé au moment de l'apparition des sexes différents. Donc, cette hypothèse d'Ono reste très controversée. Mais en tout cas, pour les mammifères, il semblerait que quelques gènes très sensibles au dosage sont effectivement compensés au niveau de leur expression par rapport aux autosomes. Et comme vous allez voir dans les prochains cours, différents gènes montrent des besoins de compensation différents au cours du développement et dans différents tissus. Donc là, une grande question. Je ne sais pas si je vous ai perdu, mais en tout cas, est-ce que la compensation de dose est importante ou pas ? Donc, la question que nous, on se pose depuis pas mal de temps chez la souris et chez l'humain, est-ce que la compensation de dose et l'inactivation du X est importante ? Donc là, je vais vous parler un tout petit peu des types d'études que nous faisons pour essayer d'aborder la question chez les mammifères de manière plus précise. Est-ce qu'au cours du développement, c'est important d'avoir une seule dose du chromosome X exprimé ou est-ce que deux doses peuvent avoir un problème? À quel moment c'est important et quels sont les gènes qui sont vraiment critiques? Et donc là, je vous montre la même diapositive que la semaine dernière, le karyotype, l'homme, la femme, les deux X très différents de taille, chez l'humain en tout cas, 1300 gènes, entre 50 et 100 gènes sur le Y, ça dépend à qui on parle. En tout cas, l'hypothèse de Mary Lyne, qui maintenant est une réalité, c'est qu'un des deux X est inactivé et propagé. Et donc, est-ce que tous les gènes doivent être inactivés? Est-ce que c'est important que tous les gènes soient inactivés et il y ait une compensation de dose? Ou est-ce que certains gènes sont pas si sensibles et d'autres pas? Donc, chez la souris, en tout cas, et puis aussi chez l'humain, en regardant des embryons qui n'ont pas pu se développer, il semble assez évident que l'absence de l'inactivation d'un des deux X dans un embryon qui a deux X est létale, assez rapidement. Et donc, ça, c'est des études qui ont été faites dans les années 90 et puis plus récemment par notre laboratoire, je vais vous les décrire un tout petit peu, qu'effectivement, quand on n'arrive pas à inactiver un des deux X, en fait, il y a une létalité assez précoce. Et comme je le mentionnais, aussi chez l'humain, il a été remarqué qu'effectivement, on ne peut pas avoir deux X actifs et survivre. Et les individus humains qui sont XO, ça s'appelle le syndrome de Turner, ont des degrés de symptômes plus ou moins importants. Et les chercheurs ont réalisé que c'est très souvent les individus XO chez l'humain ont aussi un mini-chromosome ou un chromosome circulaire, et ils sont mosaïques pour ce chromosome X circulaire, qui portent des gènes, mais qui ne sont pas inactivés. Ils n'ont pas la capacité d'inactiver ce petit chromosome X. Et donc, en fait, les individus avec les symptômes les plus importants sont les individus qui ont un X entier qui est bien actif, et puis un autre mini-chromosome X en circulaire, qui, lui, a certains gènes qui sont en double dose. Donc, on sait qu'effectivement, ça semble être important, mais personne n'avait vraiment regardé de manière détaillée à quel moment un embryon meurt et de quoi quand on a une absence de compensation de dose. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de ça. Donc, on commence à rentrer dans le vif du sujet de l'inactivation du X. Donc déjà, je voulais quand même commencer en vous décrivant que chez les mammifères utériens, il semblerait qu'une région est clé pour déclencher ce processus. Ça s'appelle le centre d'inactivation. Je ne vais pas en parler en détail aujourd'hui. Et cette région produit un ARN non codant qui s'appelle XIST, et je vous en ai déjà parlé dans le passé. Cet ARN assez magique décore le chromosome X entièrement et déclenche son inactivation. Et donc ça, c'est des études de génétique, de délétion et de transgénèse qui ont défini tout ça. On va revenir un petit peu la semaine prochaine. En tout cas, ici, je voulais juste vous montrer de manière très schématique, effectivement, XIST déclenche ce processus Comment un des deux x est choisi pour déclencher ce processus, on va en parler, mais en tout cas, il faut qu'un seul x s'inactive. Si les deux s'inactivent, l'embryon est bien sûr mort. On a vraiment besoin de l'expression de nos gènes sur le x. Mais si existe, n'est pas présent, là, l'embryon meurt aussi. Et donc, quand on fait de l'hybridation in situ à fluorescence pour détecter les gènes qui sont transcrits, ici, je vous montre ce qu'on appelle du RNA FISH, avant ce déclenchement de l'inactivation, les gènes sont exprimés à partir de 2X. Ici, vous voyez le transcrit naissant à partir d'un gène sur les 2X, donc les deux allèles en rouge. Et dès que l'ARN existe, commence à décorer le chromosome, dès que le développement commence à procéder, on voit qu'un des deux allèles commence à être mis silencié, réprimé, pour arriver à une expression monoallélique du gène. Donc, existe, décore un chromosome X, et c'est celui qui est silencieux ou quasiment totalement silencieux. Et nous savons que ce déclenchement est suivi par une cascade de changements chromatiniens qui font que le X devient hétérochromatique, hétéropycnotique, comme Barr l'avait identifié. Et donc, je vais revenir sur les modifications qui touchent le chromosome X inactif la semaine prochaine. Mais ici, je vous montre de manière très schématique. Voilà, les gènes du X inactif sont décorés par l'ARN XIST. Certaines modifications des histones les caractérisent. Il y a la méthylation de l'ADN aussi. Alors que dans la même cellule, le X actif, lui, il a les gènes qui sont exprimés, donc la polymérase sur les gènes, et puis des marques actives de chromatine qui sont associées. Donc la question est à quel moment se passe cette inactivation et est-ce que c'est important quand ça se passe. Et donc ici, je vous montre juste le schéma de vie de chez la souris en vous montrant les différentes étapes. Donc maintenant, nous savons que très tôt au cours de l'embryogenèse chez la souris, juste après la fécondation, un des deux chromosomes X va commencer à être inactivé et là, c'est toujours le X qui vient du père. Nous savons aussi qu'au cours de la spermatogenèse, le X et l'Y, qui sont les deux seuls chromosomes qui ne peuvent pas vraiment s'apparier parce qu'ils sont tellement différents, en fait, ils se mettent dans un coin, et ça aussi, je vais revenir sur ça la semaine prochaine, ils se mettent dans un coin, ils font une condensation, ils deviennent condensés, mais d'une autre manière. Ce n'est pas l'inactivation du X, c'est une condensation qui est intrinsèque à l'X et Y. Et donc, une des idées, c'était que peut-être cette condensation qu'on a dans le sperme va peut-être conduire à une inactivation préférentielle du X paternel au moment de la fécondation. Le X maternel, lui, il arrive actif, on va dire, et le X paternel, il arrive déjà inactif. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Les deux X sont actifs au début et un des deux est inactivé. C'est toujours le X paternel parce que le gène XIST, qui produit cette fameux ARN au codon, n'est exprimé qu'à partir de l'allèle paternel au début. Donc l'ARN va décorer son chromosome X et va l'inactiver. Et donc ensuite, ce qui se passe est assez étonnant, chez la souris en tout cas, il y a une reprogrammation, une réactivation de cet X inactif dans certaines cellules et les cellules qui vont former l'embryon proprement dit. Donc la masse interne, on appelle ça, et c'est ces cellules-là qui forment aussi les cellules souches-embryonnaires dont on a discuté pendant mes cours d'autres années. Donc ici, le X paternel, il est réactivé, reprogrammé. Et donc dans ces cellules-là, on a deux X actifs. Alors dans les cellules de l'extérieur de l'embryon, là, le X paternel, il reste silencieux. Il ne va pas se réactiver. Donc dans le trophectoderme et dans les tissus extra-embryonnaires chez la souris, le X paternel reste inactif. Par contre, dans les cellules de l'embryon, nous avons cette inactivation aléatoire qui était l'inactivation qu'a découvert Mary Lyne. Et c'est pour ça qu'on a les pelages bigarrés chez les femelles, parce que parfois c'est l'X paternel, parfois c'est l'X maternel qui est inactivé. Donc cette inactivation aléatoire a lieu à peu près au moment de l'implantation de l'embryon dans l'utérus, et il est propagé de manière stable dans l'individu. Simplement, dans la lignée germinale, il est réactivé pour qu'effectivement, au cours de l'ovogenèse, le X maternel soit bien actif au cours de la méiose. Donc voilà le cycle, et là, je vais vous montrer un tout petit peu ce que nous savons sur la mise en place de ce processus très tôt au cours du développement, les premières divisions de la vie. Et je vous remontre les mêmes images, là, une cellule à chaque fois, d'un embryon à deux cellules, quatre cellules, huit cellules, juste au stade blastocyste, vous voyez, existe et exprimé. Et nous savons que le génome zygotique, on va dire le génome paternel et maternel, après fécondation, il est activé très tôt chez la souris, entre une et deux cellules. Et là, XIST commence à être exprimé à partir du X paternel et il va déclencher l'inactivation du X paternel. Et comment on peut voir ça? Donc, il y a quelques années, plusieurs années maintenant, nous avons mis en place des techniques qui nous permettent de regarder cellule par cellule, utilisant ces techniques de Fish, l'expression des gènes sur le X par rapport à XIST. Et si vous voyez un embryon à environ 8 cellules, et un gène sur le X qui s'appelle RNF12 en rouge. On voit le transcrit naissant qui est sur le X maternel, pas associé avec XIST. Et parfois, il est associé avec XIST, mais la plupart du temps, il est déjà inactivé. Donc, les gènes sont déjà en train de s'inactiver au stade 8 cellules, alors qu'au stade 2 cellules, les deux copies sont actives. Donc, en fait, il y a une inactivation rapide mais progressive qui a lieu. Et on a fait ça en regardant, comme je l'ai dit, par Fish, quelques gènes. On ne pouvait pas regarder tout le chromosome. Alors, ce qui est important avec cette analyse, c'est qu'on a montré qu'effectivement, tous les gènes qu'on a regardés étaient quand même actifs à ce stade-là, entre une et deux cellules. Les deux allèles étaient bien actifs. Il n'y avait pas cette pré-inactivation du X paternel qui avait été proposée par d'autres comme étant une sorte de séquelle de cette inactivation méiotique au cours de la spermatogénèse. Donc, on pouvait éliminer cette hypothèse. Néanmoins, il fallait voir comment se progresse cette inactivation du X. Et on a vu qu'effectivement, il y a une cascade de changements des marques chromatiniens qui apparaissent autour de la stade morule. On voit la chromatine commence à changer. Ici, c'est des modifications de la chromatine qui commencent à accumuler là où existe accumulé, qui sont impliquées dans la mémoire cellulaire de cet état inactif. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, la plupart des gènes qu'on a étudiés étaient bien inactifs à ce stade de blastocyste, mais se réactivent très vite dans la masse interne. Et ensuite, comme je l'ai dit, il y a l'inactivation aléatoire. Et cette inactivation, même si elle est assez globale, néanmoins, il y a des gènes qui ne sont pas totalement inactivés à ce stade-là. Donc, ça posait toute la question de est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de compensation des doses à ce stade-là où il n'y a que quelques cellules? Est-ce que c'est quelque chose qui est important ou pas? Et alors là, oui, c'était pour me rappeler de vous dire qu'il y a des gènes qui s'inactivent et ensuite qui se réactivent beaucoup plus tard au cours du développement. C'est ces gènes qui montrent une expression biaisée entre les sexes dont je vous avais parlé, et je vais revenir sur ces gènes dans les prochains cours. Donc, si on revient à ces stades très précoces, par contre, je vous avais montré qu'effectivement, au stade de cellule, les gènes sont exprimés de manière biallélique à partir du X paternel et X maternel, et puis quand XIST commence à s'accumuler, on commence à voir qu'ils sont inactivés. Le problème avec ces techniques, c'était qu'on pouvait regarder qu'une poignée de gènes à la fois. On ne pouvait pas regarder tout le chromosome X, on ne pouvait pas regarder tout le génome, et c'est énormément de travail. Donc, en fait, et on ne pouvait pas distinguer les allèles parce qu'on n'avait pas d'informations nucléotidiques, mais on avait XIST pour nous montrer qui était le X paternel. Donc, en fait, on est revenu sur toute cette analyse récemment en utilisant le séquençage à haut débit pour regarder les transcriptomes entiers. Et ça nous a permis de regarder à quel moment l'inactivation du X a lieu pour tout le chromosome X. Est-ce qu'il y a compensation de dose ou pas? Et est-ce que c'est important quand il n'y a pas une inactivation du X? Donc, pour ceci, c'était une postdoc qui était dans mon laboratoire, Maud Borenstein, qui est très talentueuse, qui a mis en place la technique qui nous permet de regarder gène par gène s'il est actif ou inactif en utilisant des croisements des souris qui sont très polymorphes. Donc, ça nous permet de distinguer les gènes qui viennent de la mère des gènes qui viennent du père, ou on a fait aussi des croisements réciproques qui nous permettent de distinguer pour voir s'il y a des phénomènes aussi d'empreintes. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. En tout cas, elle a fait une analyse où elle a pris cellule par cellule, elle a étudié le transcriptome de ces simples cellules pour voir à quel moment les gènes s'inactivent sur le chromosome X. Donc, juste pour vous montrer, au niveau des gènes, il y a à peu près une polymorphisme tous les 600 paires de bases sur le chromosome X. Donc, ça nous permet de distinguer quand même pas mal de gènes entre le X maternel et le X paternel. Donc, n'ayez pas peur. Ici, ce que je vous montre, ben, c'est quand même à l'échelle du chromosome. Hein. Donc, ici, ce que je vous montre dans chaque ligne, c'est tout le chromosome X. C'est tous les gènes que nous avons pu étudier pour leur expression qui venaient du père ou de la mère. Et donc là, c'est les croisements que je vous avais dit réciproques. Et dans chaque cas, on a mis une couleur, on a mesuré le niveau d'expression qui vient de l'allèle maternel. Si c'est maternel, c'est rouge. Si c'est paternel, c'est bleu. Et quand c'est biallélique, c'est gris. C'est entre les deux. Et comme vous voyez, au stade le plus précoce qu'on a regardé, entre 2 et 4 cellules, la plupart des gènes montrent une expression biallélique, c'est-à-dire maternel et paternel encore exprimés tous les deux. Donc, ça a confirmé ce qu'on avait vu par Fish, que les deux AX sont bien actifs. Mais ce que vous voyez, c'est que progressivement, entre, donc ici, c'est 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, jusqu'au blastocyste, on voit de plus en plus de rouge. Et donc, le rouge, ça veut dire que c'est le gène, les gènes de la mère qui continuent à être exprimés, les gènes du père sont éteints. Le nombre de copies d'ARN qu'on détecte qui vient du chromosome paternel sont diminuées et on ne voit plus le bleu, on ne voit que le rouge. Alors, le seul gène pour lequel on voit du bleu tout le temps, vous voyez ici, c'est XIST. XIST est toujours exprimé à partir du X paternel. Mais quasiment tous les autres gènes sont exprimés qu'à partir du X maternel. Mais comme vous voyez, ce n'est pas total. Il y a quand même un peu de blanc et un peu de blanc, un peu de bleu même. Il y a certains gènes qui sont soumis à l'empreinte, juste pour faire encore un peu de confusion. On ne va pas parler d'eux aujourd'hui. Mais en tout cas, globalement, le X devient, on va dire, maternel. Le transcriptome provenant du X devient maternel au stade de la blastocyste. Donc ça confirmait ce qu'on avait vu. Mais ce qu'on pouvait faire en plus, c'est étudier la compensation de 12. On pouvait mesurer le niveau d'expression à partir des gènes du X par rapport au niveau d'expression à partir des autosomes et on pouvait les comparer entre les sexes. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand on regarde, on va commencer avec le mâle, c'est le plus simple, lui, son X, le ratio X autosomal entre les différents stades augmente et puis arrive à 1. Donc on a l'impression qu'effectivement il y a une compensation de dose progressive qui peut avoir lieu. Chez la femelle, on commence à 1 et on augmente quasiment à 2 et ensuite on baisse, on arrive à 1,5. Et donc là, c'est l'inactivation du X qui commence à baisser le niveau d'expression du X à partir des gènes du X. Donc le ratio augmente et ensuite descend. Donc, on a pu vraiment regarder si, oui ou non, il y a une compensation de dose qui se met en place. On a pu aussi regarder quelles sont les premières régions à être inactivées. Et en fait, il s'avère, et là, je vais revenir sur ce point la semaine dernière, que c'est là où l'ARN XIST va toucher premier. C'est les premières régions qui semblent être le plus affectées par cette inactivation. Et donc, la question qu'on a posée ensuite, c'est est-ce que si on enlève XIST et on n'a plus cette inactivation du X, qu'est-ce qui se passe? Et donc l'expérience a été faite il y a plusieurs années où il y a une délétion de XIST sous le X paternel, montre une létalité femelle précoce. À jour 10 et demi, l'embryon est déjà totalement anormal. Vous voyez ici le mutant femelle par rapport à un mâle sauvage. Et même à 6 jours et demi, on voit que le mutant semble pas mal perturbé. Et donc, les chercheurs qui ont publié, ils n'ont pas regardé moléculairement de manière plus précise, ils ont simplement remarqué qu'effectivement, il y a et les tissus extra-embryonnaires et l'embryon lui-même qui semblent être perturbés. Ils ont proposé que c'est peut-être parce qu'il y a une dérégulation de l'inactivation soumise à l'empreinte dans les tissus extra-embryonnaires, que finalement l'embryon il souffre de l'absence de nutriments, de facteurs de croissance. Parce qu'effectivement, les tissus extra-embryonnaires sont essentiels pour la croissance de l'embryon, surtout après l'implantation. Mais c'était tout. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous montrer, mais c'est devenu encore un sujet de controverse parce qu'un autre labo, a délété le gène XIST, a fait la même chose et a prétendu qu'en fait, il n'y a pas un problème d'inactivation du X, mais il y a une létalité qui est due à autre chose. Donc, on était tous un peu confus. Donc, du coup, on a décidé de faire la manip nous-mêmes. Et on a refait ce que je viens de vous montrer. Donc là, c'est le sauvage. On voit l'inactivation du X paternel qui conduit à une expression globale du X maternel. On a refait l'expérience, mais cette fois-ci, on a pris un mâle où on a délété le gène X sous le X. Et comme ce qui a été publié, quand on fait cet croisement, les embryons femelles meurent juste après l'implantation. Mais nous, on a pris cellule par cellule et on a lu le transcriptome pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a une inactivation du X ou pas, déjà? Parce que, comme je vous avais dit, il y a un papier qui était sorti dans Nature en prétendant qu'il y avait quand même une inactivation du X. Ici, vous voyez, je pense que c'est assez convaincant, dans les mutants, il n'y a pas du tout d'inactivation du X. Ça reste biallélique, donc entre les deux, jusqu'au stade blastocyste. Et on a pu regarder aussi l'expression de X à partir de X maternel. Il n'y avait pas d'expression de X de X maternel qui était totalement éteint. Et nous avons regardé la compensation de dose. Donc ici, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc ça, c'est les femelles, les embryons femelles XA et les mâles, le ratio d'expression XA. Et quand on regarde les mutants, ce que vous voyez ici, donc c'est, voilà le mutant par rapport au sauvage. Donc ici, ce que vous voyez ici, c'est entre 8 cellules et le blastocyste, c'est cette partie-là du graphe qu'on a refait avec cette expérience. Et vous voyez que donc là, il y a une compensation de dose qui baisse pour que le ratio XA soit presque à 1. Mais dans le mutant, il n'y a pas de compensation. On reste à un niveau très élevé d'expression des X par rapport à l'autosome. Donc là, après, la question, c'est mais qu'est-ce qui se passe par ailleurs? Quelles sont les conséquences de cette absence de compensation de dose? Et on a regardé les gènes au niveau du chromosome X, mais aussi les gènes de l'autosome, aux différents stades, pour voir le pourcentage des gènes qui étaient exprimés, augmentés ou diminués dans leur expression de manière anormale. Et nous avons vu que même au stade les plus précoces, on voyait au stade 8 cellules jusqu'au stade blastocyste qu'il y avait une forte dérégulation, non seulement sur les gènes du X, comme attendu, mais surtout au niveau des autosomes. Donc une perturbation de l'expression globalement dans ces embryons au niveau transcriptomique. Et après, on a fait ce que fait tout le monde, donc ne vous inquiétez pas, moi non plus, je ne comprends pas. Ça, c'est les réseaux d'expression quand on a les gènes dérégulés. Après, ce qu'on fait, c'est regarder quels sont les réseaux, quelles sont les voies qui sont perturbées. Est-ce qu'on peut connecter les gènes dérégulés dans des voies précises? Et voilà ce qui est sorti pour nos transcriptomes perturbés. Et bon, je ne vais pas vous faire le trajet de chacune de ces lignes, bien sûr. Je vais juste souligner que, par exemple, il y a des voies dont la différenciation des cellules et la morphogenèse de l'embryon qui sont perturbées, il semblerait. Il y a aussi les voies qui sont affectées, comme par exemple le gène TID4, qui est un gène autosomal qui est connu pour affecter la croissance du trophoblaste, les tissus extramembranaires. Et puis, il y a d'autres gènes comme SOX17 qui sont aussi impliqués dans d'autres parties de l'embryogenèse. Donc, effectivement, il y a des gènes perturbés qui semblent avoir un impact sur différents niveaux du développement. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on regarde de manière plus précise? Et bon, pour ceux qui sont intéressés, ce papier est publié, donc vous pouvez aller regarder en détail. Je voulais juste souligner que nous avons non seulement une expression, une dérégulation des gènes qui sont importants pour la pluripotence, donc par exemple ces gènes-là, nous avons une baisse d'expression de certains gènes qui sont importants dans les tissus extramembranaires, comme SOX17. Vous voyez, il est très bas par rapport à ce qu'il devrait l'être dans le sauvage. Et nous avons d'autres gènes qui n'étaient pas forcément suspectés d'être importants, mais qui sont massivement surexprimés dans les mutants. Ça, c'est un gène qui est sous le X. Il est très intriguant parce que c'est un gène OX qui est dans un cluster sous le X. Et il est normalement réprimé sur le X maternel et faiblement exprimé sur l'X paternel. Et quand on délète X et on n'a plus l'inactivation du X, en fait, il est massivement surexprimé. Et donc, on a confirmé que les protéines sont aussi perturbées pour ces gènes dans les embryons. Et pour ce gène en particulier, il a été montré comme étant probablement impliqué dans l'expression sexe spécifique et lignage spécifique chez l'humain aussi. Donc on pense qu'il y a certains gènes clés qui sont perturbés, qui dérégulent plusieurs voies au cours de l'embryogenèse. Donc je reste floue parce que je ne peux pas vous dire plus. Là, c'est pour résumer ce que je viens de vous dire. C'est qu'effectivement, nous avons pour la première fois une vision des conséquences d'une absence de compensation de dose. Ce n'est pas simple, ce n'est pas juste deux gènes qui sont importants. Clairement, c'est tout un réseau, mais ça vous montre encore une fois à quel point l'équilibre entre les différents facteurs qui sont présents à différents stades du développement est important. Et il y a plusieurs questions qui restent ouvertes, à quel point il y a d'autres gènes que ROCK5 qui sont spécifiquement impliqués dans différents défauts. Est-ce que c'est ces gènes-là qui sont vraiment les gènes absolument essentiels pour l'inactivation précoce? Donc ça, on peut commencer à le tester en utilisant les outils maintenant que nous avons chez la souris avec des transgènes, avec des délétions spécifiques. Et puis, une question, c'est est-ce que c'est toujours les mêmes gènes qui sont sensibles aux doses? Ou est-ce que si on avait regardé un peu plus tard, on aurait trouvé d'autres gènes? Je pense qu'à la fin de mes cours de cette année, vous allez réaliser que chaque gène sur le chromosome X aura peut-être son moment de gloire, on va dire, d'importance de dose à différents moments du développement. Donc, je vois qu'il me reste une minute, mais je vais terminer juste en vous parlant d'autres espèces. On a parlé beaucoup de la souris parce que, bien sûr, on peut faire beaucoup de choses chez la souris. Dans mon labo, nous avons aussi regardé d'autres espèces et d'autres labos aussi. Et on a regardé en particulier des espèces qui sont très proches de la souris, comme le lapin, en se disant que si on regarde un mammifère qui est très proche, peut-être on va trouver des mécanismes assez semblables, et on va regarder aussi l'humain qui est un peu plus éloigné, et est-ce que c'est similaire ou pas. Et donc là, c'était la grande surprise, et là, je vous fais très bref. Chez l'humain, on trouve une situation totalement différente et la situation chez l'humain ressemble plus à ce qu'on voit chez le lapin que chez la souris. Voilà. Donc déjà, on voit que cette fameuse ARN existe. Il n'est pas exprimé qu'à partir du X paternel, chez l'humain, ni chez le lapin, mais à partir des deux. Donc chez les femelles, on voit les deux X décorés par Xist très tôt au cours du développement. Et même chez l'embryon mâle, ici c'est des embryons humains, femelles et mâles, on voit que Xist est déjà exprimé au début. Après, Xist va devenir monoallélique chez les femelles et va plus être exprimé chez les mâles. Mais déjà, ça, c'était une grande surprise. Ensuite, quand on a regardé l'expression des gènes en faisant du FISH, on a vu qu'à ces stades, en tout cas jusqu'au stade blastocyste, il n'y a pas une inactivation du X évident qu'on voyait. Les gènes exprimés à partir des deux X. Chez le lapin, quand on arrive au stade blastocyste, on commence à voir une inactivation d'un des deux X. Mais en tout cas, chez l'humain, on ne voyait pas ça. Jusqu'au stade jour 7, qui est le dernier stade où on a le droit de regarder des embryons venant de la fécondation in vitro, je dois dire, qui étaient donnés par des couples dans des cliniques de fécondation in vitro. C'était donation pour la recherche sur le développement normal de l'embryon, avec ma collaboratrice Catherine Patra. Donc, en tout cas, c'était une grande surprise. Pas d'expression monoallélique de Xist, pas d'inactivation des gènes du X, pas de compensation de dose. Donc, on a regardé, on a poussé un peu plus loin pour voir mais à quel moment est-ce qu'on commence à voir quand même une inactivation du X, parce qu'on sait qu'in fine, il y a quand même une inactivation du X chez l'humain. Et donc, on a vu que c'est probablement après jour 7, donc après l'implantation, où là, et donc ça c'est un autre groupe qui a regardé des embryons qui ont été mis sur une couche de cellules endométriales et ils ont vu qu'en poussant un peu plus, on voit qu'effectivement les modifications des histones qui caractérisent l'inactivation du X commencent à apparaître. Et nous avons vu qu'effectivement, peut-être les gènes commencent à être inactivés à ce stade-là. Mais en tout cas, on était assez perplexes. Pas de compensation de dose, évident, en tout cas en utilisant ces techniques. Et des situations très différentes chez l'humain et chez les lapins par rapport à ce qu'on avait vu chez la souris. Et tout ça a été publié et je voulais quand même souligner Ikuo Okamoto, qui était l'embryologiste dans mon laboratoire, qui avait fait la plupart des expériences, qui est maintenant au Japon. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, même si les blastocystes dans différents mammifères, en tout cas chez les placentaires, se ressemblent pas mal, on pense qu'il y a quand même des différences, il cache des différences importantes. Déjà dans le timing, l'activation zygotique chez la souris est très précoce, à une ou deux cellules, je l'avais mentionné. Chez l'humain, c'est plus tardif, 4 à 8 cellules. Chez le lapin, c'est encore plus tardif, vers 8 cellules à 16 cellules. Donc il y a des différences de timing et peut-être aussi des différences de signalisation qui commencent à être décernées maintenant qu'on peut aller regarder quels sont les gènes qui sont exprimés à quel stade avec ces outils single-cell transcriptome. Donc clairement, même si, comme je l'ai dit, les blastocystes sont assez semblables, donc ça c'est un blastocyste humain, ça c'est un blastocyste murin, et ça c'est lapin, un jour de différence, vous voyez la taille du blastocyste, enfin c'est énorme, c'est des milliers de cellules chez le lapin. Donc la forme semble assez semblable, mais le timing et peut-être les voies sont très différents. Mais quand même, ça nous a un peu perturbés parce qu'effectivement, ça veut dire que chez la souris, on a les deux X actifs normalement que tout au début, pendant un ou deux cycles cellulaires. Chez le lapin, pour au moins deux ou trois cycles cellulaires au cours de l'embryogenèse, avant que l'inactivation commence. Et chez l'humain, plus que sept divisions cellulaires avant que les premiers signes d'inactivation apparaissent. Donc, est-ce qu'il y a une double dose des gènes qui sont liés à l'X ? Alors que je viens de vous montrer que chez la souris, si on n'a pas la mise en place d'inactivation d'X très tôt, il y a une perturbation massive qui est vue déjà au stade 32 cellules, et même avant. Donc, comment on peut tolérer une double dose, chez l'humain en particulier, où c'est si tardif? Et donc là, je voulais souligner le fait qu'il y a quand même des évidences qui suggèrent qu'il y a des différences dans la croissance des embryons mâles et femelles ou XX et XO. On sait que les embryons mâles, au début de l'embryogenèse, jusqu'au stade blastocyste, semblent un peu accélérés, que ce soit chez l'humain, chez la souris ou chez le bovin. Et on sait que les embryons XX, femelles, par rapport aux embryons XO, sont un peu plus lents dans leur embryogenèse post-implantatoire immédiat. Et nous, on a étudié ça de manière plus précise dans les cellules OS XXXO qui se différencient. On a vu qu'effectivement, 2X empêche la différenciation précoce. Donc, il y avait déjà des suggestions qu'il y avait des différences, mais on ne s'attendait pas à avoir une absence totale d'inactivation du X chez l'humain. Et en fait, ce qui a été publié tout récemment est un papier où ils ont fait comme on a fait chez la souris, ils ont fait ça chez l'humain. Ils ont pris cellule par cellule pour regarder le niveau d'expression des gènes sur le X et comparer ça par rapport aux autosomes. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple parce que chez l'humain, on n'a pas forcément toute l'information sur les polymorphismes. Alors, chez la souris, nous, on sait qui était papa et qui était maman. On a leur génome et on sait exactement où se trouvent les polymorphismes pour comparer gène par gène. Quand il s'agit des embryons humains, c'est plus délicat. Donc, il n'y avait pas toute cette information. Et ça reste un peu controversé la manière que les données ont été étudiées. Mais le message global de ce papier qui est sorti en 2016, c'est que même s'il n'y a pas une inactivation d'un des deux X entiers, les deux X sont un peu baissés dans leur niveau d'expression. Ils ont regardé au niveau du messager, ils n'ont pas regardé au niveau du transcrit naissant. Au niveau du transcrit naissant, enfin si, ils ont regardé comme nous, mais ils ont vu la même chose que nous, qu'au niveau du transcrit naissant, ils ne voient pas de différence, ils voient pas une inactivation au niveau du transcrit naissant chez l'humain jusqu'au stade de jour 7. Par contre, quand ils regardent le messager, qui est la forme épicée de l'ARN, là, ils voient qu'il y a une baisse dans le niveau de l'expression des gènes sur le X chez les femelles par rapport aux mâles. Donc, il y a une compensation de dose qui est mise en place néanmoins. Alors, est-ce que c'est un processus à part qui n'a rien à voir avec XIST? Est-ce que ça, c'est un phénomène, on va dire, ancestral qui est là et qui a été dépassé après par l'inactivation du chromosome entier par XIST? Ou est-ce que c'est XIST qui est quand même là, bien présent, mais je ne sais pas si vous avez remarqué quand je vous avais montré les embryons humains, XIST était là, mais il était moins bien collé au niveau du X, il n'était pas plus flou. Donc l'idée, c'est que peut-être XIST est là, mais il n'arrive pas à s'associer correctement au niveau du X, et donc il n'arrive pas à inactiver les gènes complètement, mais peut-être il les inactive un tout petit peu. Donc on a un peu une baisse d'expression des gènes, mais ce n'est pas entier encore, et c'est qu'après que ça devient beaucoup plus efficace. Alors il y a des papiers qui sont sortis depuis qui suggèrent que ce n'est pas tout à fait vrai ce qui a été publié là, que l'interprétation n'est pas juste et que ce qu'il faut, c'est une analyse gène par gène en contrôlant bien pour les changements au niveau global transcriptionnel. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec l'hypothèse d'Ono, on ne peut pas être totalement sûr de ce qui se passe, surtout quand on n'a pas forcément une profondeur, enfin une expression, on va dire, importante d'un gène et une profondeur de séquençage et des polymorphismes suffisants pour vraiment distinguer les deux allèles dans chaque cellule. Et donc, de manière ultime, pour tester comme on a fait chez la souris, on devrait déléter Xist pour voir s'il y a un impact, oui ou non, sur le consensus. Donc, bien sûr, chez l'humain, ce n'est pas quelque chose qui est prévisible. Par contre, chez les singes, ou Iku Okamoto, justement, mon collègue est en train d'étudier toute la mise en place de l'inactivation du X chez le singe, chez le macaque, là, on peut envisager la délétion du Xist pour voir les conséquences. Donc, ça, c'est, je pense, dans l'avenir. Voilà, et donc là, je pense que je ne vais pas, parce que je dépasse mon temps, la question de pourquoi Xist ne décore pas complètement le X et n'inactive pas complètement le X à ces stades précoces reste ouverte. Et il y a une étude par le laboratoire de Claire Rougeol qui a montré qu'un autre ARN non codant est là peut-être pour empêcher Xist de faire tout son travail. Et Claire Rougeol elle-même va venir nous parler de ça au colloque que j'organise en mois de mai. Donc voilà, pour terminer, on a regardé donc plusieurs espèces et on voit que le degré de compensation de dose et la manière que c'est mis en place sont extrêmement différents, même entre les éthériens. Et donc chez les marsupiaux et les monotrèmes, comme vous imaginez, c'est encore plus différent. Et chez les marsupiaux, nous savons qu'il n'y a pas de gène Xist et il y a un autre ARN en codant qui s'appelle RSX. Et là aussi, peut-être il est impliqué dans l'inactivation du X, c'est une question qui reste, qui est encore explorée. Mais le message qui sort de tout ça, c'est que c'est très souvent ces ARN non codants qui semblent être mis en œuvre pour évoluer des manières de faire la compensation de dose au niveau d'un chromosome entier. Que ça soit Xist ou RSX ou les gènes ou les ARN ROCK chez la drosophile, on les retrouve de plus en plus souvent. Et ils sont peut-être faciles à inventer, souvent via les reliques des rétrotransposons au cours de l'année dernière. Ils sont aussi faciles à réguler de manière dynamique au cours du développement. Ils ne font pas trop de mal parce que c'est un ARN, ce n'est pas une protéine, ça ne va pas perturber trop de choses. Et ils peuvent rester au niveau du noyau et s'associer en 6 à un chromosome, ce qui est quand même assez important pour mettre en place un système qui va mémoriser une inactivation, par exemple, d'un chromosome X, que ce soit via Xist ou RSX. Donc là aussi, le découvreur de RSX va venir parler au colloque du 14 mai. Vous allez, j'espère, entendre plus sur cet ARN. Donc voilà, le résumé ici. J'ai dépassé le temps, donc je ne vais pas aller trop en détail. Je vous le laisse. Mais j'espère que je vous avais montré que... En plus de cette variabilité, grande variation de manière de déterminer le sexe, maintenant on a aussi tous les variants pour arriver à avoir une compensation de dose. Cette compensation de dose des chromosomes sexuels semble assez importante pour les différences entre les deux sexes. Pour cette surexpression à partir du X qui a été suggérée par Ono, ça reste une question à débattre. Et il y a des gènes clairement qui sont sensibles, comme je l'ai mentionné. Mais en tout cas, pour l'inactivation du X chez les mammifères, chez la souris, il semblerait que cette compensation de dose est absolument critique et nous commençons maintenant à voir la clé sur les voies moléculaires qui sont perturbées quand cette compensation n'a pas lieu comme il faut. Et enfin, j'ai terminé en parlant des ARN non codants. Donc les facteurs qui sont recrutés par ces ARN non codants et les changements qui ont lieu au niveau des chromosomes sexuels, ça, c'est les questions que je vais explorer la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup.